9h30, 11h sur Europe 1.
MDR.
Avec Alexandre Ruiz.
Les matins de Ruiz.
Si la préhistoire a précédé l'histoire, il n'a jamais été démontré que la préscience ait précédé la science. Inoubliable jeu de mots de Pierre Dac, notre humoriste et comédien français. C'était il y a plus de 50 ans. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe. Ravi de vous retrouver, comme tous les jours, pour votre rendez-vous estival. Nous sommes ensemble pour voir comment l'humour a évolué ces dernières années, et ce jusqu'à 11h. Comment ça va, Mumu ?
Très bien, une bonne petite nuit de récupération et tout va bien. Vous aussi ?
Ouais, pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal. Sur un même sujet, le regard hier d'un Coluche est-il différent ou non de celui aujourd'hui d'un Jamel Debbouze ? Tiens, par exemple, nous allons comparer, comme tous les jours, trois grandes périodes, les grands classiques, ceux qui nous font rire aujourd'hui, et nous partirons à la découverte des nouvelles pépites de l'humour, les nouvelles pépites de demain. Notre invité aujourd'hui, il a 47 ans. Il est né à Toulouse. Il est écrivain depuis l'âge de 7 ans, avec l'écriture de sa première nouvelle, « Les aventures d'une puce », baigné tout petit par les univers de Jules Verne ou encore Edgar Allan Poe. 1978, il obtient son bac et commence, en parallèle, la rédaction de ce qui sera, 13 ans plus tard, en 1991, un véritable succès. Je ne vous donne pas tout de suite le titre. Avant cela, des études de droit et de criminologie. L'École supérieure de journalisme de Paris, pigiste pour Le Point, Ça m'intéresse, Libération, Le Nouvel Observateur. Il devient journaliste scientifique régulier. Et puis cette fameuse année 91 arrive, la sortie enfin de... Fourmi, voilà le titre que je tardais à vous dévoiler. Véritable succès pour une suite, une trilogie même des fourmis, traduit en 35 langues, tirée à 15 millions d'exemplaires. Bernard Werber est avec nous. Bonjour Bernard.
Waouh, ça écrase un peu comme ça. Que dire après ? Que dire ?
Comment allez-vous ?
Bah ça va, je suis content d'être là, de parler enfin de le sujet qui m'intéresse le plus, l'humour.
Bernard, le jeu de mots de Pierre Dac, si la préhistoire a précédé l'histoire, il n'a jamais été démontré que la préscience ait précédé la science. Habile jeu de mots, cette notion d'absolu et de relatif très présente dans bon nombre de vos publications. Hein.
Le choix de cette phrase est d'autant plus astucieux que c'est le thème de mon prochain roman, je ne dis pas ça pour faire la pub, mais c'est sur la préscience, c'est-à-dire la capacité à sentir les événements avant qu'ils arrivent. Et il s'avère qu'il y a très peu de gens en effet qui arrivent à ça, qu'on a complètement laissé tomber tout le côté... prévision, parce qu'on considère que ça fait partie des trucs qui sont plus de la science. Et voilà, je voulais le réhabiliter.
Il y a un côté aléatoire, c'est un peu mystérieux.
Plus on avance, plus on pense qu'on ne connaît pas le futur. Alors du coup, les gens n'osent plus regarder en avant, et c'est un tort, il me semble.
Vous parliez de votre prochain bouquin, Le Miroir de Cassandre, chez Alain Michel. Le 1er octobre prochain.
C'est même la première fois que j'en parle. Je crois que c'est presque trop tôt. Je sais pas, ça va me dire « Ah, t'es fou, t'en as parlé, c'est beaucoup trop tôt. » Mais oui, c'est une jeune fille qui voit le futur et ça lui pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc, vous voyez, la phrase de Pierre Dac prenait d'autant plus de sens. Oui.
Ça tombait bien. Comment l'humour a évolué ces dernières années ? Du coup, Bernard, on va planter le décor tout de suite et on va confronter deux de nos trois grandes périodes avec Muriel, un thème. Muriel, on va parler de littérature, puisque vous êtes vous écrivain, on va parler de littérature. Quel était hier le regard de nos humoristes sur la littérature française et quel est-il aujourd'hui ? Pierre Desproges sur Marguerite Duras, il y a plus de 30 ans. Pierre Desproges qui critique les écrits de Marguerite Duras, mais également le film d'Alain René, souvenez-vous, sorti en 1959, Hiroshima, mon amour, dont le scénario est signé Marguerite Duras. Pierre Desproges.
MDR. Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Oui, non, c'est un titre de... Non, il y a eu un film, mais ça a d'abord été un bouquin de Duras. Non, Duras aussi, Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries, hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou. Il Notez que tout n'est pas mauvais dans le nucléaire. C'est une source d'énergie. L'énergie, on en a besoin. Sans énergie, on ne pourrait pas s'éclater. Et sans pile, on perd la face.
Pierre Desproges sur Marguerite Duras, c'était il y a plus de 30 ans. La comparaison, Bernard, avec l'époque actuelle, toujours sur la littérature, c'est Florence Foresti. Florence Foresti qui parle du prix Goncourt, que vous appréciez, je crois, également. Brigitte, le Goncourt lycéen.
On est tout de suite dans le comique.
C'est sur le plateau de Laurent Ruquier.
Je tiens tout de suite à rectifier une erreur que tout le monde commet sur le plateau depuis le début. On ne dit pas Goncourt, on dit concours. Non, parce que c'est vrai, on dit pas non, mais on dit pas, ah, tiens, un Goncourt circonstance, vous comprenez? Ou alors on dit pas, oh là là, Brigitte, c'est une sacrée gonasse, ça ne marche pas.
C'est sûr.
Alors essayez de réviser vos classiques.
Est-ce que vous lisiez?
Ah oui, je lisais énormément étant jeune.
Ah, c'est bien.
Et je m'en félicite aujourd'hui. Bravo, Brigitte, merci. Parce qu'en fait,
la lecture
ouais. ça permet vraiment de savoir bien s'exprimer, ouais. Ça donne du vocabulaire,
voilà
parce que, la lecture, enfin lire, en fait, c'est vital à la vie. Hein. Je dirais un peu, si vous voulez, que lire, c'est comme écrire, mais à l'envers.
Seriez-vous capable, ouais. Brigitte, comme nos jurés, de lire 12 livres en 2 mois?
Tout à fait. Parce qu'en fait, je connais des techniques de lecture rapide.
Ah.
Alors, par exemple, par contre, non, je déconseille de lire les livres en diagonale. Ça fait très, très mal au cou. Il faut pas. Il vaut mieux les tenir tac, tout droit comme ça, bien à l'horizontale, et lire une ligne à la fois.
Ah.
Oui, non, parce que moi, avant, je lisais 4 lignes en même temps pour aller plus vite. Et hop, je me suis évanouie.
Ah ben.
Non, alors sinon, pour aller plus vite, ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de lire mot par mot, on peut lire phrase par phrase. On gagne un temps fou.
Est-ce que vous connaissez les 12 ouvrages en lice?
En liste, Laurent. Oui, je connais les 12 ouvrages en liste. Et alors, je suis très étonnée de voir que de grands auteurs comme Émile Zola ou Victor Hugo ne figurent pas dans le concours. C'est quand même des gens qu'on devrait primer de leur vivant. Non, mais parce qu'il faut se dépêcher, ils sont plus très jeunes, c'est vrai. Faut se manier. Faut pas que ça fasse comme Pierre Bellemare, qu'on n'a jamais eu le temps de récompenser.
MDR
avec Alexandre Ruiz.
Florence Foresti, Brigitte Le Goncourt, lycéen sur le plateau de Laurent Ruquier sur France Télévisions. Bernard Werber, Pierre Desproges, il y a plus de 30 ans, Florence Foresti aujourd'hui, on voit l'évolution en parlant de littérature, tiens.
Ah oui, j'avais eu la chance de rencontrer Pierre Desproges dans les coulisses et on s'était rien dit. C'est-à-dire, j'avais serré la main, il m'avait serré la main. Mais c'était un instant historique que j'oublierai jamais. Et c'était quelques temps avant qu'il arrête, avant qu'il meure. Et ça avait été un choc. Voilà.
Juste une petite parenthèse sur vous. On a parlé tout à l'heure de votre nouveau bouquin, Le Miroir de Cassandre, qui sortira en octobre prochain, le 1er octobre. À chaque fois, chacun de vos bouquins sortent en octobre pour venir contrarier un peu le Brie Goncourt, c'est ça ?
Proposer autre chose. Moi, je crois que le combat, c'est pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui lisent. Mmh. Alors, si on propose aux gens de lire des livres ennuyeux, en effet, c'est
ça
deux
vous
comiques.
Ennuie. Les Brie Goncourt,
les deux
vous
comiques
vous
nous ont montré quand même que on compliquait le chemin du lecteur. Alors, moi, je suis pour qu'on facilite le chemin du lecteur. Je suis pour qu'on lui offre des livres accessibles et qu'il prenne une histoire, plutôt que Hiroshima, mon amour, qui en effet risque d'en rebuter, du moins les jeunes, en tout cas.
Vous avez dit, je ne veux ni l'Académie française, ni le Goncourt. Ouais. Je veux que le livre se lise dans le monde et ça, je l'ai.
Ouais, je veux des lecteurs, je veux pas des honneurs. Enfin, je crois qu'il y a deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui pédalent pour avoir les honneurs et entrer à l'Académie française. Et il y a ceux qui pédalent pour être lus. Donc moi, j'écris pour être lu et c'est mon plaisir. Ça tombe bien. Je crois qu'il faut être clair, faut demander ce qu'on veut et puis voilà.
La trilogie des fourmis, 35 langues, 15 millions d'exemplaires, il a gagné.
Et pour tenter de gagner le pack familial pour aller au parc Astérix, eh bien, c'est dans un instant.
Europe 1.
Jusqu'à 11h,
les matins de Ruiz.
Avec ce matin, Bernard Werber.
Journaliste scientifique, écrivain, bien entendu, l'auteur de cette trilogie des fourmis, traduit en 35 langues, je le disais juste avant la pub, tiré à 15 millions d'exemplaires. Pour les auditeurs d'Europe 1, Bernard, vous pouvez rappeler ce que sont les fourmis, cette trilogie?
c'est un gag, c'est toute une civilisation qui s'appelle les fourmis, qui sont à côté de nous et dont tout le monde se fout, qui rencontre une autre civilisation, qui est celle des humains, et dont tout le monde s'occupe, et ils se créent une communication. Et j'ai essayé de montrer que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'elles vivent dans des cités qu'elles sont pas intéressantes, mais j'ai pris 3 fois 700 pages pour expliquer ça, et ça m'a bien amusé. Mais l'idée, c'était surtout d'ouvrir l'imagination des gens, de leur dire, regardez, ce petit monde qui est entre vos chaussures, eh ben, il est passionnant. Et ce n'est pas de la science. Ce n'est pas de la science, c'est juste de la curiosité. Voilà.
Et vous l'avez commencé l'année de votre bac, il y a 13 ans.
Ouais.
13 ans avant 91, avant la sortie.
En fait, je suis un gros feignant, un gros laborieux. J'ai mis 12 ans à écrire ce bouquin. Après, j'ai compris comment on faisait les livres. Mais 12 ans pour comprendre surtout la technique du suspense.
Ouais.
Et la technique du suspense, c'est la technique qui permet aux gens de s'amuser quand ils lisent un livre. Et j'oublie jamais qu'écrire un livre, c'est un divertissement, l'écriture, mais la lecture. Et on ne fait pas un métier pour frimer, on fait un métier pour que les gens oublient leur quotidien et ils se détendent.
L'humour est là, bien entendu, aussi pour ça, pour faire oublier le quotidien ou alors pour souligner des petites choses de la réalité, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, et ça fait du bien. Bernard, on va parler de cette évolution de l'humour français. On a comparé Pierre Desproges et Florence Foresti. Attaquons-nous aux grands classiques. Les grands classiques avec... je vais commencer par un personnage, je ne sais pas si vous l'appréciez franchement, mais tant mieux, c'est en soulignant parfois les mots que l'on vient trouver la solution. Bourville, 1951, avec une causerie, la causerie anti-alcoolique Bourville, 51.
MDR.
En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier, je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a passé. Non, pas le fer. L'eau, disait, l'eau, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer. Et le fer a dissous. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'aura fera chez une reineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau fera chez une reineuse, oui.
MDR. La causerie anti-alcoolique de Bourville en 1951. Bernard Werber, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que c'est pas forcément un humour que vous appréciez, on se trompe ?
Si. Non, je préfère Bourville à De Funès parce qu'il représente le français moyen et en même temps, il est modeste et en fait, il est très malicieux. Et c'est très écrit, on se rend pas compte parce qu'on est tellement dans le personnage. Mais là, je réécoutais, je me dis, le type, il n'y a pas une virgule en trop, il n'y a pas un espace en trop, le rythme est parfait. Et ça met assez en face d'ailleurs avec Danny Boone. Je l'ai écouté, je me disais, il y a des intonations qui ressemblent un peu à Danny Boone. Et c'est ce côté simple, modeste, pas frimeur, pas en avant, discret, qui fait tout le charme du personnage.
Ah Bernard, vous êtes peut-être le premier de nos invités à nous dire ne pas apprécier Louis de Funès, qui pour beaucoup de nos invités je reprends le mot parce que c'est un bon mot, stratifié l'humour français.
Alors je suis un peu influencé, je crois que j'avais rencontré Prévost qui m'avait dit, si je vais sur la tombe de Funès, ça sera pour cracher dessus. Parce que
Daniel Prévost
Non, Paul Prévost.
Ah, Paul
Qui m'avait dit ça, mais il y a très longtemps, il m'avait dit, parce que chaque fois que j'étais marrant, il me faisait un signe pour me signaler que la scène où j'étais marrant allait être coupée puisqu'il fallait qu'il n'y ait que lui de marrant. Alors quand il m'a raconté ça, je me suis dit, ah ouais, ce type qui a l'air hyper sympa, il peut être tyrannique.
C'est un peu star, quoi.
Mais en même temps, c'est logique. Quand on est à ce niveau de perfection dans l'humour, on ne supporte pas que quoi que ce soit pousse à côté. Et je pense qu'il n'est pas le seul, enfin De Funès n'est pas le seul humoriste qui était dictatorial sur les tournages et qui laissait aucun autre humoriste émerger quand lui faisait son numéro.
Est-ce que du coup vous appréciez les personnages type Fernandel?
Oui, Fernandel non plus, n'était pas comme ça, ils étaient plus dans une sorte de générosité. D'ailleurs, il y avait un excellent sketch de Desproges qui racontait la cour de Coluche, une soirée chez Coluche, et dans lequel il expliquait comment il y avait des cire-bottes partout, qui rigolaient de la moindre de ses blagues, et qu'à la fin, Coluche lui-même ne savait plus qui il était entièrement perdu par la cour qui l'entourait.
Grosse connaissance de l'humour français. Hein.
Oui, oui. Bah
grosse
oui,
là, connaissance de l'humour français, attention.
Coluche, c'est pratiquement l'histoire de France. Là. C'est plus
attention,
dans l'humour.
On est dans les grands classiques. Bernard, nous vous avons parlé de Bourvil 1951, Bon en avant 20 ans plus tard, 1972. On va parler de Jean-Yann.
MDR.
Ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia,
alléluia.
Oh, bah faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Pour une fois que j'ai l'esprit station, il s'agit bien de parler du bon Dieu.
Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert. Vous n'avez pas à discuter, je vous ordonne de couper ça.
Bah, je vous emmerde.
Et moi, je vous trouve grossier, Gerbert. Et je vous fous à la porte.
Ah non. Non, non, parce que je prévoyais tellement votre réaction que je vous ai préparé une petite lettre d'adieu. Une lettre d'adieu radiophonique, évidemment. Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire.
Arrêtez-moi, c'est à vous.
Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans ou bon con d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive, employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique. Mais cela fait partie du jeu radiophonique, vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors Plantier, salut, je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire.
MDR avec Alexandre Ruiz.
Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, 1972, Bernard.
J'ai écouté ça, je me suis dit, il y a, en fait, mai 68... au cinéma, c'est Jean-Yann, c'est ça, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est vraiment le film de la révolte contre la société de consommation, et ça passe d'autant mieux que c'est rigolo, pas tous ces films qui a eu la nouvelle vague qui était intellectuelle, qui se prétendait être dans le mood de mai 68, c'est ce film, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis tous les autres films qu'il a fait ensuite, dans lesquels il montre que la meilleure manière de combattre le capitalisme, c'est précisément de rentrer dedans, puisqu'il y a le syndicat qui se met à créer leur propre entreprise, et c'est vraiment l'humoriste politique, intelligent, qui ne se prend pas au sérieux. J'adore Jean-Yann.
Jean-Yann qui, dans ce film, parle de la religion. Vous en parlez, vous, également beaucoup dans vos bouquins. Vous avez comparé à maintes reprises la religion à un système dépassé.
Oui, c'est un système ancien. Le nouveau système s'appelle spiritualité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le même mot qui sert à définir l'humour. Ce qui montre bien que si Dieu existe, il est humour. Et s'il y a une dimension au-dessus, je ne vois pas pourquoi elle serait grave, sérieuse, en train de donner des fessées et de promettre des punitions et l'enfer. Moi, j'imagine un Dieu d'humour, un Dieu qui plaisante avec nous. D'ailleurs, regardez les actualités, prenez-le sur le ton de l'humour, vous verrez, au-delà de certains drames, il y a quand même des moments où on dirait qu'il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule.
She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info. The info, show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Just how it be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. When you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new.
MDR. Alexandre Ruiz.
Et ce matin, nous sommes en compagnie de Bernard Werber.
Avec nous jusqu'à 11h pour parler de l'évolution de l'humour en France. Journaliste scientifique, écrivain. Bernard, on était avec Jean-Yann qui dans Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, rend son tablier, ne veut plus animer cette radio pieuse. Pourquoi avoir rendu ce tablier de journaliste scientifique pour être seulement écrivain?
Je me suis dit, est-ce qu'il va me poser la question? Écoutez, c'est passé exactement la même situation. Le site de l'Observateur, c'était que des hiérarchies. Je crois qu'il y avait 120 journalistes et 80 avaient des titres de chef, de rédacteur en chef. Ouais. Tout le monde était chef, tout le monde était cirepompe. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais où je trouve le plaisir dans mon métier? Et je me suis aperçu que c'est que sur le terrain et plus du tout à gérer ces luttes de pouvoir internes qui existent dans toutes les grandes entreprises, mais moi, personnellement, qui ne m'amuse pas du tout. Donc, j'ai décidé d'essayer de mettre toute mon énergie sur mon roman Les Fourmis. Après, il fallait une petite part de chance. Voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui s'est dit, tiens, ça a l'air complètement starbé, fou et on y va quand même. Il était seul. J'en ai eu qu'un seul éditeur. Tous les autres se sont dit, mais c'est quoi cette bizarrerie sur les fourmis? Tout le monde s'en fout.
40 éditeurs qui ont refusé quand même.
Oui,
ils doivent s'en bouffer les doigts maintenant.
Mon propre éditeur m'a refusé 3 fois. Donc,
ah oui,
faut insister un peu d'ailleurs.
Tiens, un petit cadeau pour vous, Bernard, puisque tout à l'heure vous avez bien souligné, apprécié Pierre Dac. Nous sommes dans les grands classiques. Ah oui. Pierre Dac encore, avec ce sketch assez incroyable, l'opération Pierre Dac dans le rôle d'un médecin. Souvenez-vous, il rend un formulaire pour tout simplement un nouveau patient. Écoutez.
MDR.
Oui, alors mon ami, qu'est-ce que nous vous faisons comme opération? Appendicite, vésicule biliaire, prostate, hystérectomie.
Vous savez, moi je suis pas fixé, hein.
Oui, oui. Vous n'avez pas de préférence?
Oh non.
Oui, bon, alors voyons, quelques petits renseignements d'abord d'ordre administratif. Votre nom, ça n'a aucune espèce d'importance. N'est-ce pas? Bon, voyons. Marié, célibataire?
Ni l'un ni l'autre.
Ah, alors qu'est-ce que vous êtes?
Assuré social.
Ça revient au même, oui. Vous avez encore vos parents?
Ah non, je les ai perdus.
Ah, désolé. Vous les avez perdus dans quelles conditions?
Eh bien, bêtement.
Ah oui?
Oui, dans la foule, à la foire du trône.
Vous avez fait une déclaration de perte à l'état civil?
Ah oui, oui, ils m'ont donné un certificat d'orphelin provisoire.
Ah oui, ouais. Eh bien alors vous êtes parfaitement en règle.
Mais par contre, j'ai deux frères.
Ah, et vous avez encore de la famille?
Oui, j'ai deux frères.
Vous avez deux frères, mais vous avez raison de me le dire, parce que c'est extrêmement important pour le diagnostic et tout ce qui en découle, n'est-ce pas?
Je pensais aussi que ça vous intéresserait que je vous dise que j'ai deux frères.
Vous avez raison, bien sûr. D'autant plus que j'avais oublié de vous le demander. Alors, qu'est-ce qu'ils font, vos deux frères?
Eh bien, il y en a un qui est clerc de notaire à Montluçon,
ouais.
Et puis l'autre est clerc de lune à Montbeuge.
Ah. Eh bien, là, une très jolie situation. Alors, respirez bien à fond. Expirez, la dite 33.
Ah, je peux pas.
Pardon?
Je peux pas dire 33.
Je peux pas dire 33. C'est de plus en plus curieux, mais qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oh, je peux dire 12, 24, 48, 35, 39, 41, 92, 98, 115, 110, 125, 130,
135.
Oui, c'est de l'inflation.
Oui, c'est une forme d'inhibition arithmétique. C'est assez rare, d'ailleurs, oui. Mais généralement, ça n'arrive que quand ça se produit. Bon, dites-moi, vous n'avez jamais fait d'aérophagie?
Ah non, mais remarquez, ça m'aurait bien plu.
Ah
oui? Oui, oui, seulement j'ai pas les moyens.
MDR.
Pierre Dac, l'opération. Bernard Werber, qu'est-ce qui vous faisait rire, à part ces trois grands classiques, Bourville, Jean-Yann, Pierre Dac, petit?
Pif Gadget. Maintenant que vous me le dites, Pif Gadget, ça a été une révélation. J'attendais les exemplaires de Pif Gadget avec beaucoup d'impatience, et notamment Gottlieb, Mandrika,
ouais.
Bretécher, j'en rappelle plus qui c'est. Après, j'ai glissé sur Pilote, mais c'était la bande dessinée où je trouvais vraiment ma dose de rigolade quotidienne,
qui est
indispensable
gadget.
Pour la santé. Comment?
Pas le gadget.
Si, si, le gadget, j'essayais chaque fois de le monter, j'y arrivais à moitié.
Comme puis, tout le monde.
Voilà, avec les petits pois sauteurs qui en fait, c'est un truc ignoble, c'est un petit verre à l'intérieur qui essaie de sortir. Et je faisais les fusées aspirine. Non, Pif Gadget, c'est vraiment ma rigolade quand j'étais tout petit.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Bernard Werber et Alexandre Ruiz.
Jusqu'à 11h,
MDR, avec Alexandre Ruiz.
Bernard Werber avec nous jusqu'à 11h, l'écrivain, journaliste scientifique, pour parler de l'évolution de l'humour en France. Bernard, on vient de faire le point sur l'information. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça en ce moment, dans l'info, qui vous amènent à sourire?
Parfois je vais sur internet, il y a l'actualité humoristique qui donne assez à réfléchir. Je crois que l'info est surtout faite pour nous rendre angoissés, donc ça me fait pas du tout rire. Qu'est-ce qui pourrait me faire rire dans l'info? Attendez, je réfléchis.
C'est on va trouver
finalement,
ça.
Finalement, maintenant que vous me le dites, il y a peu d'informations rigolotes qu'on nous sert aux actualités.
Dans quelques secondes, ceux qui nous font rire aujourd'hui avec le Groland, avec Elise et Moon et tout ça jusqu'à 11h.
Et tout de suite, on joue
Europe 1.
Europe 1.
Europe 1 vous offre des packs invitations familiales pour 4 personnes pour le parc Astérix qui fête ses 20 ans à cette occasion de superbes attractions comme Goût du risque, Menhir Express, des banquets d'anniversaire et des nocturnes tous les samedis du 18 au 15 août de 17h à 23h. Pour tenter de gagner votre pack familial pour le parc Astérix, répondez à la question suivante. Quel est le titre du livre, du dernier livre de Bernard Werber? Nos amis les humains ou nouvelle encyclopédie, j'étais sûre, du savoir relatif et absolu. Vous avez la bonne réponse, envoyez MDR au 72121, MDR au 72121, 50 centimes plus le coût d'un SMS.
Europe 1. Les matins de Ruiz sur Europe 1.
avec Bernard Werber ce matin.
Mumu, ça y est, Bernard a trouvé,
quelque chose. Je sais que c'est pas sympa ce que vous lui avez fait quand même. Parce que
je suis laborieux. Non, je suis laborieux, il me faut un temps pour réfléchir.
Qu'est-ce qui vous fait rire dans l'actu en ce moment ?
Alors, ce qui me fait rire, c'est quand on pose des questions hyper sérieuses aux sportifs et on voit qu'ils réfléchissent pour essayer d'avoir l'air intellectuel.
Qu'ils essaient de réfléchir, ouais, d'accord.
Non, non, bah, ils essaient, mais on leur pose des questions terribles. En fait, les types, ils courent après un ballon, ils pédalent, on ne faut pas leur demander plus. Après, leur demander leur avis sur la géopolitique ou sur l'astrophysique ou des choses comme ça, ça m'a l'air chaque fois bizarre. Et alors, ils essaient chaque fois de répondre comme si ils allaient pouvoir trouver quelque chose de complètement nouveau. Voilà.
Vous êtes un fan de vélo, hein, je crois.
J'en pratique, mais je ne le regarde pas. D'ailleurs, je ne comprends pas que les gens restent des heures à regarder la télé des gens qui font du vélo.
Le Tour de France en ce moment, quand même.
Le Tour de France, mais c'est quand même atterrant. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il ne se passe rien. C'est des gens qui avancent et puis après, il y en a un qui, au dernier moment, il y a 15 secondes sympa dans lequel ils se précipitent tous sur la ligne. Bon.
Alors à ce moment-là, on ne regarde pas la Formule 1 et compagnie.
Mais je ne regarde pas la Formule 1. Mais à côté, le tennis, c'est quand même, il se passe un truc toutes les 10-15 secondes. Là, il se passe un truc toutes les heures.
Il se passe plein de choses.
Faut être vraiment patient. Je suis nul en sport. C'est peut-être ça, mon truc.
Alors, Bernard, ceux qui nous font rire aujourd'hui, et on va commencer par une découverte pour moi, très, très franchement, je vous l'avoue, François Pérusse.
Oui, écoutez, j'ai découvert ça par hasard.
Vendez-moi François Pérusse, du coup.
J'ai découvert ça par hasard au Québec. Tout d'un coup, j'ouvre la radio et j'entends un mec qui fait des tas de voix, des tas de personnages. Et en 2 minutes, il a créé un petit film de 2 minutes, hyper marrant, où il se passe plein de trucs. Et c'était vraiment excellent. Et finalement, j'ai essayé d'avoir son numéro de téléphone, j'y ai parlé, il m'a raconté comment il faisait ça. Il est tout seul, enfermé dans un parking, et il fait toutes les voix, une dizaine de personnages. Alors il fait des Columbo, il fait des Star Trek, il fait des tas de trucs. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas actuellement où ça tourne.
François Pérusse, en tout cas, il est là aujourd'hui.
On peut en écouter.
Bien sûr, François Pérusse, les 2 minutes du peuple, avec le sketch L'Audition.
MDR. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes,
on vous en a déjà parlé et on vous en parle encore. L'enfer pour un artiste, c'est de passer une audition.
Et vous avez fait quoi comme travail jusqu'à aujourd'hui
Robert.
Mais
bon, j'ai déjà fait des voix pour Corban Disblut.
Corban Disblut.
C'est ça, oui.
Jamais entendu parler.
C'est normal, c'est moi qui faisais les voix.
Bon. Alors, c'est une comédie musicale, il faut donc chanter et danser.
J'ai d'ailleurs appris la chanson, ça fait « Le bonheur des gens honnêtes, c'est d'avoir l'âme en paix ».
Très jolie voix.
Merci.
Vous pouvez danser aussi ?
Oui, j'ai appris la danse, ça fait comme ça.
Superbe.
Merci.
Mais vous pouvez chanter et danser en même temps ?
Ouais.
Allez-y. Bon, vous pouvez pas faire les deux, c'est ça ?
Je crois que je peux seulement danser sans chanter ou chanter sans danser.
D'accord. Et partir sans revenir, vous pouvez ?
Oui, ça, je sais le faire.
Alors, au revoir.
Lors d'une audition, l'acteur doit être prêt à jouer toute scène qui lui est proposée.
Bon, alors, on va commencer...
Robert,
voilà. Alors, vous allez jouer Thierry.
Thierry, parfait.
Et Paul, tu veux bien jouer Roger ?
Bonjour.
Bon, alors, j'ai préparé 3 scènes. Je sais pas laquelle...
Oh, n'importe laquelle, ça m'importe peu.
Vous jouez Thierry.
Ouais.
Bon, on pourrait faire...
N'importe laquelle, ça m'importe peu.
Bon, on va faire la première. Roger s'assied sur le visage de Thierry.
Ok.
Ah oui, ça m'importe peu.
Allez-y.
On peut même faire une des deux autres, hein, ça m'importe peu. N'importe laquelle. Hein.
Bon, laquelle vous voulez faire ?
Oh, ça m'importe peu. Ça peut être n'importe laquelle des deux autres.
Bon, la deuxième, alors ?
Oh, ça m'importe peu. N'importe laquelle.
Roger frappe Thierry qui atterrit tête première dans les toilettes.
Oh, ça m'importe peu.
Bon, allez-y, on commence.
Ça pourrait même...
Pardon ?
Même ça pourrait être la troisième.
D'accord.
Ça m'importe pas du tout. Ça.
Allez-y.
N'importe laquelle. Hein,
on commence, s'il vous plaît.
Ça pourrait très bien être la troisième. Moi, c'est sûr.
Bon.
Très à l'aise, là.
Alors, la troisième.
N'importe peu.
Thierry sus Roger.
Oh, ça m'importe peu, mais peu importe laquelle.
Action.
On peut même demander à cette demoiselle de jouer Roger, ou si j'ai aucun problème.
Non.
N'importe laquelle.
Bon.
Ça m'importe peu, n'importe laquelle.
Prêt ?
Ouais.
Bon, mais allez-y.
On peut même faire une pause. Hein,
non, pas de pause.
Tout à fait flexible.
Dans certaines auditions, il y a des choses qui clochent, mais ça ne vient pas toujours de l'acteur.
C'est quoi ? Au bout du monde, je ne sais quoi, pour vous épouser, je ne sais quoi, Caroline, je ne sais quoi.
Attendez...
Quoi, je suis pas bon ?
C'est pas ça, non, il y a un je ne sais quoi dans ce texte qui me dérange.
2 minutes, les 2 minutes du peuple.
MDR. Avec Alexandre Ruiz.
François Pérusse, les 2 minutes du peuple avec ce sketch, l'audition.
Il faut préciser une petite chose, c'est que cette émission est une quotidienne. C'est-à-dire que les Québécois, ils avaient ça... tous les jours, toute l'année, sans exception. Donc ça va très très vite. Ce n'est pas des sketchs travaillés, c'est des sketchs qui fusent.
En parlant de l'évolution de l'humour français, François-Xavier de Maison était à votre place il y a quelques jours. Et il parlait de cet humour québécois qu'il connaît bien, puisque sa compagne est québécoise.
Il va être content, vous le redis.
Il va être content, l'ami François-Xavier. L'humour québécois, tiens, la comparaison avec l'humour français, Bernard.
Ah, c'est vraiment autre chose. Il y a, on a Cavana aussi, je crois, en France, qui est en humour québécois. Mais je trouve que c'est toujours bien. C'est comme pour la chanson, c'est toujours bien d'avoir un autre point de vue francophone sur ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut faire. En tout cas, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît chez nous. Il y a un petit temps d'adaptation en France. J'ai réécouté le sketch, je me suis dit, est-ce qu'ils vont arriver à rentrer dedans? Mais il faut en écouter plein pour rentrer dedans. Moi, j'aime beaucoup la culture québécoise. Ils ont une musique, ils ont un humour, ils ont un cinéma qui est extraordinaire, qui mérite vraiment d'être découvert.
Est-ce que dans toutes vos écrits, pas mal de bouquins aujourd'hui avec quasiment que des succès, c'est vous-même qui l'annoncez, Bernard.
Non.
Est-ce qu'il y a des touches d'humour dedans?
Non seulement ça, je trouve que tout bon roman se résume à une grande blague et un bon pitch, ça fonctionne comme une blague. Et une blague, c'est vachement dur à faire parce qu'il faut poser très vite une situation, des personnages, une montée dramatique et une chute étonnante. C'est pour ça que je suis très admiratif de ces blagues qui circulent dans les cafés, dans les carambars, dans tout ce qu'on veut, qui sont très construites. Et j'avais fait une nouvelle, ça s'appelle...
Surtout la blague carambar. Hein,
là où naissent les blagues, où je me posais la question, en fait, qui c'est qui invente ça? Parce qu'il n'y a pas de copyright. Vous savez, même Coluche, à un moment, il reprenait ses blagues populaires, mais on ne sait pas qui c'est qui les fait.
Qui écrit cette blague carambar?
Voilà. Et alors, j'imaginais qu'il existait la GLH, la Grande Loge de l'Humour, qui était une sorte de groupe secret vivant sous terre, dans lequel il y a des tas de gens créaient des blagues, et ces blagues étaient livrées sans copyright à la foule, avec l'idée de lutter contre les tyrans, parce que quand les gens rigolent, en général, les tyrannies commencent à trembler. Et vous remarquerez d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des gouvernements coercitifs, ils commencent par flinguer les humoristes, et l'humour commence à baisser.
On sent très franchement, Bernard, que dans ce qui
c'est une cause politique,
dans ce qui vous dans ce qui vous touche également, il y a une notion de surprise qui est assez grande. Hein.
Mais vous savez, un roman, à la limite, il se juge par sa chute, comme une blague. Et il faut à tout prix arriver à surprendre les gens sur la chute. Et l'avantage de la blague, c'est que c'est comme un petit roman qu'on sert en direct aux gens et on voit tout de suite, ça fait rire, ça marche ou ça marche pas. Alors que mon roman, j'aimerais être à côté des gens pour les regarder au moment où ils vont découvrir le pot aux roses, au moment où le héros va ouvrir la porte et va reculer de surprise en disant « Ah bon sang, c'était ça !» Et voilà, mais malheureusement, je suis pas à côté. Alors quand je sors une blague, je suis à côté, je vois tout de suite, ça marche pas.
Donc c'est sûr que dans ceux qui nous font rire aujourd'hui, le Groland sur Canal, ça doit vous faire rire parce qu'il y a toujours une chute, c'est toujours surprenant. Écoutez ce sketch, Pastis, Suze, Vodka, Groland sur Canal.
MDR. Parfois, l'actualité tombe sur nos têtes comme un bon gros Paris-Brest.
Qu'est-il vraiment arrivé au jeune Karim, retrouvé la gorge tranchée au bord d'une voie ferrée? L'affaire remonte à jeudi dernier. Tout s'est passé ici, près de la gare de Mufflin. Voici une reconstitution du drame, d'après les témoignages recueillis sur place. Un vigile du Pastis, le pôle armé pour la sécurité des trains intersecteurs, aurait appelé un agent de la SUSE, la section d'urgence des zones électrifiées, pour signaler la présence d'un individu en train d'uriner sur un caténaire. Arrivé sur place, les deux hommes auraient invité Karim à aller se soulager plus loin. Devant la résistance de celui-ci, l'agent de la SUSE et le vigile du Pastis auraient appelé en renfort un employé du Calva, le centre d'aide logistique aux vigiles agressés, ainsi qu'un maître chien du GIN, le groupe d'intervention neurologique. Pour maîtriser, le forcené serait ensuite venu en renfort un membre des Vodka, les volontaires pour les opérations de décérébration des Kabyles et des Arabes, ainsi qu'un membre des Cognac, les commandos d'opposition gauloise aux Négros, Arabes et Shintok. Interrogés par la police, les six auteurs présumés nient fermement cette version des faits. Selon eux, ils étaient tous au moment du drame en train de boire un coup dans un bar proche de la gare. Un alibi confirmé par le patron du bar, par ailleurs membre du MURGE, le mouvement unitaire des restaurateurs guillotineurs d'étrangers. Affaire classée. Même le chien.
Attention les jeunes, l'abus d'alcool fait pisser.
MDR
avec Alexandre Ruiz.
Le Groland sur Canal, Pastis, Suze, Vodka, avec bien entendu Jules-Édouard Moustique et cette surprise qui vous plaît, Bernard. Hein.
Oui, c'est vachement difficile de surprendre. Vous savez, il y a tellement d'humoristes qui sont passés avant, tellement de romanciers qui ont écrit des bouquins. Comment arriver à surprendre? Il faut chaque fois inventer quelque chose. Et moi, je les avais rencontrés, les gens de Groland aussi, ils se donnent un mal fou pour être créatifs. Ils vivent pas sur des routines. Dès qu'on sort de la sexualité et du racisme, c'est difficile de faire un humour inventif. Et pour ça, il faut bosser. On s'imagine pas, mais chaque fois qu'on rigole, il y a quelqu'un qui a bossé derrière, qui s'est donné du mal devant une feuille pour arriver à amener cet instant de paroxysme où ça va péter.
On a l'impression qu'ils vivent parfois sur une autre planète. Vos détracteurs diront que parfois on a l'impression que vous êtes sur une autre planète.
Ah, moi je suis bien sur notre planète. Vous savez, on est là pour s'amuser. Moi je crois qu'on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour bosser, on est là pour inventer des trucs, penser, ouvrir des portes et penser plus loin. Alors après, si on utilise l'humour, si on utilise d'autres techniques, c'est peu importe. L'important c'est d'ouvrir l'esprit et l'humour, c'est génial.
Les matins de Ruiz sur Europe 1.
Il ne boit pas, mais il nous fait beaucoup rire ce matin. C'est Bernard Werber.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit, alors j'ai plus besoin de boire.
Ça tombe bien, je rappelle qu'on donne des packs familiales pour le parc Astérix ce matin.
Pour le
parc Astérix.
D'accord, Bernard Werber avec nous jusqu'à 11h. Journaliste scientifique, écrivain, je vous le rappelle, l'auteur des Fourmis. Ce grand succès chez Albin Michel, traduit en 35 langues et tiré à 15 millions d'exemplaires. Nous sommes dans la période actuelle, Bernard. Ceux qui nous font rire aujourd'hui, nous avons entendu à l'instant le Groland avec Pastis, Sus, Vodka. Je fais juste un parallèle avec la période des grands classiques. Tout à l'heure, vous nous évoquiez que vous étiez un peu contre cette idée de... un peu contre De Funès, parce que vous aviez eu des petites infos en off comme quoi il était un petit peu star.
Ouais.
Moustique, c'est tout l'inverse. Hein. C'est le gars qui a su garder la tête tranquillement sur ses épaules.
Oh oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que cette émission perdure et est aussi populaire. C'est
parce Jules-Édouard Moustique.
Jules-Édouard Moustique, ça fonctionne bien, oui.
Pas de grosse tête pour lui. Autre comique qui marche dans la période actuelle, êtes-vous d'accord, Elie Semoun?
Oui, mais ça c'est très écrit. Alors à chaque fois que j'entends ça, je me dis le type, il a fait un truc extraordinaire. Et son personnage, ses différents portraits qu'il a fait, notamment dans les photomatons et tout ça, c'est vachement travaillé, c'est très très chouette. Et on sent le type qui bosse et qui est généreux.
Si je vous parle du sketch Blatini l'enterrement, ça vous parle?
C'est le crématorium, là, c'est ça?
Elie Semoun qui tient le rôle de la maison Periglioni pour la crémation de Monsieur Blatini. Écoutez bien, Elie Semoun.
MDR.
On appelle la famille Blatini. Vous êtes famille Blatini. Approchez-vous, messieurs, dames. Si vous voulez bien vous recueillir avant que nous ne procédions à la crémation. Ah, si je peux me permettre, madame, les Kleenex sont à droite. Ça, c'est un linceul. Je rappelle que la maison Periglioni offre au bout de 10 cercueils un petit verre de sangria. C'est ce qu'on appelle le petit plus Periglioni. Oui, tout à fait, madame. On envoie la musique tout de suite. C'est la boulette, là. On a confondu avec les martiniquais de ce matin, je suis désolé. Tout à fait, madame, on envoie la musique tout de suite. Oh, madame, il faut pas vous mettre dans des états pareils, madame. Vous savez, la mort, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé au petit monsieur? Ah oui, c'est cette personne qui nous est arrivée en deux fois, oui. René, oh, c'est bon, tu peux faire partir le four, hein. Thermostat 4. Comment ça, les jambes? Tu les as pas mis avec le reste? Regarde dans le tiroir du bas. Et...
excusez-moi, madame. Vous êtes cardiaque?
Ah, merci. Mesdames, messieurs, messieurs, nous allons passer dans ce que nous appelons, dans notre jargon, la salle de chauffe.
Ah, vous, la petite fille, là? On est bien agité, hein? Il faut pas s'approcher de la machine. C'est chaud, sinon tu vas finir comme papa.
Oh, madame. Vous savez, les jeunes, maintenant, il faut leur parler comme ça, hein? Tiens, regarde. Monsieur le clown, il va mettre ton papa dans une grande boîte magique. Et quand il réapparaîtra, réapparaîtra dans une boîte plus petite.
Pardon, monsieur?
Oui, tout à fait, c'est plus de 1500 degrés minute. Ah oui, c'est de la bonne machine, ces deux marques allemandes, ils ont fait leur preuve. Hein. René, c'est bon, tu peux faire partir. Fais coucou à papa.
MDR.
Elise Moon, Blatini, l'enterrement. Vous le connaissez par cœur, Bernard?
Oui.
Hein, quasiment.
Non, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut être irrévérencieux. Et puis la mort, c'est le truc qui nous fout à tous la pétoche. Alors c'est ça dont il faut rigoler. C'est un sens, l'humour. L'humour, c'est pas juste quelque chose de léger. Ça peut vraiment être de la philosophie. Et là, tel qu'il le fait, il nous dit, attendez, vous voulez qu'on parle de la mort? On va en parler. Ça se passe comme ça. Et rions-en.
Vous en parlez souvent de la mort, 94, Thanatonaute.
Oui, parce qu'il faut en parler normalement, il ne faut pas laisser ça aux religions. Il faut dire, bon, bah, ça se peut que si on écoute justement tous les textes spirituels, on sort de notre corps, on parte à la découverte du paradis. Parlons-en normalement, arrêtons de dire il faut y croire ou il ne faut pas y croire. Rêvons, voilà. Autorisons-nous à utiliser la mort pour rêver et non pas pour en dire c'est mal, c'est bien, c'est terrible, c'est affreux. Non, ça fait partie du cycle de la vie, il faut l'accepter.
Juste une petite chose, vous n'aimez pas rigoler autour de tas de gens, vous dites. Ça veut dire que vous n'allez pas au spectacle?
Non, c'est pas ça. Je me méfie, vous savez, de ces leaders qui tout d'un coup sont enterrés d'une cour qui rigole à l'unisson de n'importe quoi. On parlait de Coluche, il y a tout le temps des gens qui émergent et qui ont leur manière d'écraser les autres, de rappeler « vous êtes mes vassaux », c'est de sortir des blagues pas drôles du tout et tous les autres se sentent obligés de rire. L'humour, c'est une arme. Ça peut faire du bien ou ça peut faire du mal. Il ne faut pas croire que ça fait toujours que du bien. Mais il y a une manière d'écraser les autres. Ça devient de la moquerie, ça peut être une manière de dévaloriser les choses aussi. Il ne faut pas croire que l'outil est complètement neutre. Ça dépend de la volonté de celui qui l'utilise.
Europe 1.
Jusqu'à 11h.
Les matins de Ruiz.
Des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. C'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chante comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Je te chante la mer.
Boris Bergman, Gabi, au Gabi, 1980, c'est sur Europe 1.
MDR, Europe 1, les matins de Ruiz.
Bernard Werber ce matin.
Avec nous jusqu'à 11h, l'écrivain, l'auteur des fourmis. Bernard, on évoquait tout à l'heure ce rapport avec la mort. Pas facile de rire de la mort, pas facile d'écrire, comme vous le faites également sur la mort. C'est un thème récurrent pourtant dans l'humour français.
Oui, bah, tout ce qui est grave, il faut arriver à le flinguer. Tout à l'heure, je voulais compléter les choses en disant on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est la phrase de Desproges qui résume tout le problème. C'est-à-dire que tous les sujets, même la mort, même les dictateurs, même le fascisme, on peut en rigoler, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Et c'est là où l'humour doit être réfléchi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait derrière une volonté de faire du bien et non pas une volonté de faire du mal. On peut faire du mal avec l'humour.
Bernard Werber, les nouveaux talents maintenant. La troisième tranche de ce MDR. Les nouveaux talents, les pépites de demain qui feront rire peut-être d'autres générations. Denis Maréchal.
Oui, voilà, c'est excellent. C'est très bien écrit.
C'est pas vraiment une nouvelle pépite, mais on le met dans ce cadre-là. Denis Maréchal, avec un thème que vous allez apprécier, l'astrologie.
MDR.
Oh tiens, vous êtes au courant de cette histoire ? C'est arrivé il y a 8 mois, 1 an, c'est un truc réel. Hein. Il y a un mec en prison, à Rouen, il a bouffé son codétenu. C'est bizarre de faire ça, non ? Faut pas manger les gens, enfin. Mais comment on en arrive à des extrémités pareilles? Je veux dire, moi je dis ça devait être vraiment dégueulasse à la cantoche. Hein. Non mais c'est fou. Comment? Après Prison Break, Prison Breakfast. En plus, le mec qui s'est fait bouffer, il a dit, ça se trouve il avait commis un délit mineur, bon, il avait chouré un sac et tout, il se fait bouffer, c'est sévère. Eh, c'est un peu strict quand même, hein. Franchement. En plus, il a dû dire, mais t'es pas avec ce mec, il mange les gens. Ah bah oui, mais il n'y a plus de place, c'est comme ça. Ah, c'est un peu sévère. Oh non ! Oh, t'es pas vrai ! Oh non ! Verseau. Après un début de semaine en demi-teinte, mardi soir, mercredi soir, on est quel jour ? C'est ça, mardi soir, c'est marqué, oui. Mardi soir, vous vous éclatez. En effet, vous découvrez un comique hors pair. Sans doute le meilleur de sa génération. Vraiment, ce Denis Maréchal, comment fait-il? En plus d'être beau gosse, il nous régale. Oh, mais je préfère pas terminer, de toute façon, c'est gênant. Et de toute façon, vous y croyez à l'astrologie ou pas?
Non.
Oui, mais t'y crois? Oui. Alors l'astrologie, je sais pas, vous savez. Moi, l'autre fois, j'étais dans un café, comme ça. Il y avait une jeune fille qui était en train de pleurer. Et il y avait sa copine en face d'elle qui lui faisait « Mais attends, mais je veux dire, mais c'est normal. Attends, c'est quoi son signe à Arnaud ? Capricorne ? Cherche pas. Qu'est-ce que c'est que cette explication de merde ? Vous en connaissez des gens qui font ça ? Capricorne, bah, c'est clair, cherche pas. En plus, en ce moment, il a plein de Mercure dans sa lune. Forcément, ça l'irrite, hein.
MDR.
Denis Maréchal, l'astrologie. Bernard Werber, ça marche,
quoi,
Denis
Maréchal?
j'aime beaucoup. Je l'ai vu en spectacle, d'ailleurs, et c'est un ami, je le connais bien.
La notion d'astrologie, pour vous, science exacte?
manière de créer une conversation avec une jeune fille de bonne famille assez rapide. Non, c'est pas une science exacte parce que les constellations qu'on voit dans le ciel, en fait, appel aux journalistes scientifiques, en fait, c'est des points dont certains sont des étoiles, d'autres sont des galaxies. Et c'est parce que nous sommes sur Terre que nous les voyons tous dans le même axe. Mais il y en a qui sont très très éloignés les uns des autres. Ils ne sont pas regroupés comme on pourrait le croire. Donc ça part d'une logique un peu bizarre. Je préfère l'astrologie chinoise où on part de l'année de conception plutôt que de l'année d'accouchement, du moment d'accouchement. Je trouve qu'il devrait faire une astrologie sur le moment de conception. Parce que l'accouchement, par exemple, je prends le cas de mon fils, il est né au moment où il y avait l'accoucheur qui avait sa partie de golf qui commençait, qui terminait. Donc c'est lui, il est né par césarienne, c'est lui l'accoucheur qui a décidé du jour et de l'heure où il allait naître. Donc après, bon, il est gémeaux, c'est pas lui qui a choisi d'être gémeaux.
Quel âge a votre fils ?
Il a 15 ans.
Ah, et son prénom ?
Jonathan.
Comment vous le faites rire ?
Par les Monty Python et la série Y a-t-il un pilote pour sauver la reine, qui est deux choses qui se passent en boucle et il adore ça. C'est de l'humour anglais, mais ça fonctionne quand même.
Peter Sellers et compagnie, ça marche
aussi
chez vous,
un
ça
peu, mais surtout les Monty Python. Là, au point où quand il rencontre quelqu'un, il dit « Vous connaissez les Monty Python ?»
Et si la pour personne quelqu'un de 15 dit non, ans, c'est pas mal hein, de dire ouais, aujourd'hui oui. Monty Python.
Et si la personne dit non, il va tout de suite offrir Sacré Graal, il en a plusieurs, et il les offre. Pour lui, c'est la base même de « On pourra se comprendre si on rigole ensemble des Monty Python ».
Vous nous disiez tout à l'heure ne pas trop apprécier ces salles où un interlocuteur prenait un peu les gens devant lui comme ses vassaux.
C'était oui, non, mais en dehors des humoristes professionnels.
D'accord.
Hein. Je pensais par exemple dans les rédactions de Nouvelle Obs où il y a des petits caïds qui arrivent, des petits chefs et qui font rire avec des blagues nulles, mais c'est une manière pour tout le monde de s'écraser et de montrer nous sommes soumis au chef.
Est-ce que c'est un peu votre trait de caractère quand vous donnez vos conférences sur les modes d'écriture ? On sait que vous donnez des cours. On a eu encore un très très bon papier dernièrement dans le Nouvelle Obs, daté d'il y a une semaine sous la plume de Jacques
Grignon. C'est le dernier, à mon avis.
Le dernier, que... exactement. qui parlait de votre... avec un titre...
Non, mais il n'a pas...
Best-seller mode d'emploi. Vous donnez des cours d'écriture à l'amphi de l'Institut océanographique. Vous êtes accueilli par l'INRES. Donc 400 personnes présentes dans cet amphi, vous donnez un cours d'écriture.
Voilà. Et je leur dis... Je leur pose la question, qui c'est qui sait raconter des blagues ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir raconter une blague ? Et tout de suite, on va se mettre à discuter de la blague comme si c'était un roman. Pour moi, la blague, c'est le haïku dans la société occidentale, c'est-à-dire c'est la version petite des textes dans la société occidentale. C'est pour ça que ça me semblait aussi intéressant de savoir qui c'est qui invente les blagues, comment naissent les blagues.
Vous ne les prenez pas pour vos vassaux, donc ?
Ah non, pas du tout. Je crois qu'on a découvert un art, il est important de le transmettre. On considère toujours que les romanciers sont des gens qui sont touchés par la grâce. Moi, je crois qu'il y a une manière d'apprendre à faire du suspense, qu'il y a une manière d'apprendre à faire des chutes surprenantes, et que ça se travaille, que ça s'apprend, que ça se transmet. Et je suis contre l'idée de l'auteur enfermé dans sa tour d'ivoire qui parle à personne, qui transmet rien, qui dit « voilà, j'ai un don, vous l'avez pas ». Je crois que n'importe qui peut arriver à écrire des romans, mais il faut avoir ce sens de la construction, du rythme et de la chute surprenante.
Il y en aura d'autres, des cours comme ça ?
Des cours, je ne sais pas, c'est les internautes qui m'avaient demandé de faire ça. Et puis, donc l'INRES avait organisé ça.
Association de recherche sur les phénomènes paranormaux, hein, l'INRES.
Oui, c'est surtout des copains sympathiques qui me sont dit « ça ne te dirait pas de transmettre ce que tu as ». Et puis j'ai dit « si, depuis le début, mon angoisse, c'est de mourir sans avoir transmis ».
C'est pas mal quand même, 400 personnes devant soi pour leur apprendre l'écriture.
Ça existe aux États-Unis, en Angleterre.
Comment réussir un best-seller ?
Oui, et c'est dommage que ça n'existe pas en France, que ça ne soit pas répandu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette transmission. Et je voulais ramener ça. Tout à l'heure, je parlais des blagues, mais il y a aussi un autre art qui est important, c'est la nouvelle. C'est-à-dire la short story, la petite histoire dans laquelle on est obligé d'être efficace si on est tout de suite ennuyeux. Et ça, je trouve, c'est l'exercice où on reconnaît les bons et les mauvais écrivains. Mmh. C'est ceux qui sont capables de faire des petites histoires qui fonctionnent et qui n'ont pas peur de le publier. Mais bon, voilà, c'est un combat un peu difficile parce que ce n'est pas à la mode. Mais voilà, donc je suis pour les nouvelles, je suis pour les blagues et je suis pour les histoires construites dont la chute est surprenante.
Après la short story, voici la short pause.
Europe 1 avec Alexandre Ruiz.
MDR.
En compagnie de Bernard Werber ce matin.
On parle de ses nouveaux talents. Denis Maréchal à l'instant sur l'astrologie. Autre nouveau talent, Zelig.
Zelig, voilà. Zelig est plus qu'un grand humoriste. C'est-à-dire, moi, j'ai vu son spectacle et dès le début, j'ai tellement rigolé que j'ai pissé dans mon froc. Je suis allé le voir, on est devenus copains. J'ai dit bravo, là, c'est, vous êtes vraiment excellent, il y a une énergie extraordinaire. Et après, quand j'ai tourné mon film Nos Amis les Terriens, j'ai voulu l'avoir à contre-emploi. C'est-à-dire, j'ai dit tu vas jouer le rôle du méchant dans mon film. Et il a été fabuleux. Parce que c'est un type qui a le sens du rythme, qui a le sens de la rigueur et de toute l'énergie nécessaire à être un vrai provocateur, être un vrai humoriste. Mmh. Et c'est un surdoué. Encore plus que ce qu'on a cité avant, Selig m'a l'air l'humoriste du futur et le type qui peut vraiment changer les choses parce qu'il en a envie. Il cherche pas à avoir le poste et le pouvoir qu'ont certains humoristes, il cherche vraiment à trouver de nouveaux filons pour faire un nouvel humour. Et c'est ça qui me plaît chez lui.
On va l'écouter avec son expérience chez Castorama.
MDR.
On avait décidé de refaire l'appartement en famille comme des millions de Français. Avec ma femme et mes enfants, on s'est dit, tiens, on va aller chez Casto, puisque chez Casto... Ça marche la pub, hein? Ça marche grave, hein? C'est vrai. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout, il y a tout ce qu'il faut pas. Parce que chez Casto, c'est trop, il y a trop tout ce qu'il faut. C'est un bordel, il y en a partout. Tu trouves jamais rien, c'est pas vrai? Attends, une fois je cherchais les serrures, j'étais vers les poignées, les verrous, je trouvais pas, je demande au vendeur. Excusez-moi monsieur, je dis les serrures s'il vous plaît. Il m'a dit monsieur, les serrures, on les met au rayon boulon. C'est logique. Je lui dis alors les ampoules électriques, vous les mettez au rayon moquette? Il m'a dit exactement. Donc on arrive chez Casto avec ma femme et les enfants, dans l'entrée du magasin, j'ai distribué des sifflets à tout le monde, dispersion générale. C'est une technique que j'ai inventée. Tu vois, tout le monde s'arrache avec un sifflet, le premier qui trouve les pinceaux, hop. Tu gagnes un temps incroyable, tu vois. Donc bon, tout le monde s'arrache dans tous les sens avec son sifflet. Moi, j'avais le quart nord-est du magasin. Ça faisait quoi, 30 secondes que je marchais. Coup de sifflet à droite. Oh! Je me dis, c'est bon, 30 secondes. Je vais par là. Coup de sifflet à gauche. Oh merde! Les salopards, ils ont séparé les pinceaux des rouleaux. Exprès pour faire chier, tu vois. J'arrive au rayon peinture, et là, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vois à 6-8 mètres devant moi? La chance est avec moi. Un vendeur libre. Incroyable. Oui, mais le problème, c'est qu'un autre bricoleur vient de repérer mon vendeur libre. Et j'espère qu'il va pas me niquer. Le temps s'arrête dans le Casto. On s'observe tous les trois. Le bricoleur me jette un tournevis, moi je l'esquive, genre Matrix. Heureusement ma fille a tout compris, elle arrive, elle saute dans le bricoleur, elle balance un coup de sifflet. Il prend peur, il se retourne, saute sur le bonheur, j'ai gagné, elle est à moi. Ouais. Et alors attendez, non seulement le mec, il était libre, mais il était du bon rayon.
MDR avec Alexandre Ruiz.
Selig, l'expérience chez Castorama. Bernard Werber, vous nous avez parlé de son rôle à Selig dans votre film, sorti donc en 2007, Nos Amis les Terriens, produit par Claude Lelouch. Voilà. Ce film, avec la voix off de Pierre Arditi. Vous vouliez un film sans star, vous êtes allé chercher Selig, parce que vous ne vouliez pas une comédie du dimanche soir.
Oui, j'ai compris ma douleur en même temps, parce qu'on m'a dit, attends, il n'y a pas de star, on ne peut pas distribuer ton film. Ah bon, on distribue que les films avec les stars. Ah ouais, on distribue. Donc la distribution a un peu payé pour l'absence de star, et je ne suis pas arrivé à lancer Selig comme vedette internationale. Mais ça ne fait rien, on est devenus amis, et voilà.
C'est marrant d'être allé faire un film.
Ah, j'en ai toujours eu envie. Mais pour moi, vous savez, mon art, ça, c'est pas romancier, c'est pas écrivain, c'est raconteur d'histoire.
Ouais.
Je crois que la connexion, c'est le bonhomme à l'époque préhistorique qui racontait au coin du feu les histoires anciennes des ancêtres et les chasses. Et c'est ça qu'on fait. C'est pour ça que je parlais de la fonction de divertissement du romancier. On n'est pas là pour ennuyer les gens. On est là pour les faire rêver, pour les faire rire, pour leur donner envie de faire des trucs qu'ils n'oseraient pas faire sinon. Et c'est pour ça que je me sens en phase avec... J'ai beaucoup d'amis humoristes parce qu'on a le même truc, si ce n'est qu'eux, ils sont obligés de faire très très court. Alors, je suis assez admiratif des gens qui, en 3 minutes, arrivent à faire ce que moi, je fais en 200 ou 300 pages.
Est-ce que vous avez déjà été une fois pessimiste, Bernard? Parce que depuis 9h30 maintenant, on baigne dans l'optimisme. Votre film Nos Amis les Terriens, donc sorti en 2007, produit par Claude Lelouch, n'a pas eu une très bonne critique.
Non.
Tout à l'heure, on échangeait sur divers passages du côté du Nouvel Obs et autres. Et puis, ben, il y a eu des fois, c'est la loi et de la vie, certains passages difficiles. Mais vous allez toujours de l'avant, il y a toujours de l'optimisme en vous.
Ce qui est marrant, c'est d'être l'aventurier, d'être pionnier. Donc, on est aux premières lignes, donc on se prend les flèches. Il ne faut pas se plaindre après de se prendre les flèches. Moi, je ne me plains pas, je considère que c'est complètement normal. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est d'être devant et de tester des choses, même trébucher, perdre ou être discrédité par les autres. Ça fait partie du sport. Et je me doute bien que, vu que le système n'aime que les choses qu'il connaît déjà, tout ce qui est nouveau, ça les inquiète, ça les angoisse. Ils ont envie de me fermer ma tête, ma bouche.
Ça a quand même dû vous perturber hein, au niveau du cinéma, que les gens ne comprennent pas forcément le scénario, le démarrage. Que
c'est
les
pas
professionnels.
Les gens. J'ai vraiment...
Non, on parle du public, mais les professionnels qui.
Ah, c'était les stars. On m'a tout de suite dit, vous savez, quand j'ai voulu distribuer le film, on m'a dit qu'il y a comme star. J'ai dit, il n'y a pas de star. Ils m'ont dit, mais on ne veut même pas le voir. Donc en France, il faut le savoir, les films se font ni sur la production, ni sur la réalisation, ni sur le scénario. C'est uniquement les acteurs, et tant mieux pour eux. J'ai compris cette règle, j'ai voulu transcender, et on m'a dit, ah non, d'abord tu trouves les stars, et après tu commences à écrire le scénario. À la limite, tu demandes à la star qu'est-ce qu'elle a envie de faire comme scénario. C'est plutôt l'ordre logique des choses.
Europe 1.
Ah, Europe 1 vous offre des packs invitation familiale pour 4 personnes pour le parc Astérix qui fête ses 20 ans à cette occasion. De superbes attractions comme, attention, jeu de mots, goût du risque, Menhir Express, des banquets d'anniversaire et des nocturnes tous les samedis du 18 juillet au 15 août. On va y aller de 17h à 23h. Pour tenter de gagner votre pack familial pour le parc Astérix, répondez à la question suivante. Quel est le titre du dernier livre de Bernard Werber, invité ce matin d'Alexandre Ruiz ? Nos amis les humains ou nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Vous avez la bonne réponse. Envoyez MDR au 72121, 50 centimes, plus le coût d'un SMS.
Europe 1.
Jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, se résonne, c'est pas la fin. J'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Alors, où se résonne, c'est pas la fin de notre monde, et à tort, on se questionne. C'est pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière des sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. Je te veux toi avec tes faux et tes problèmes de fabrication. Je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre. Je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop. Je ne sais pas comment te dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. Un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière des sentiments. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments.
pas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments.
Jusqu'à 11h, les matins de Ruiz.
Avec Bernard Werber ce matin jusqu'à 11h, Alexandre.
Avec nous pour cette dernière ligne droite sur l'évolution de l'humour en France. Juste petite parenthèse, Bernard, nous évoquions votre film en 2007, également pièce de théâtre. Nos amis les terriens, c'était le film. Nos amis les humains, c'est la pièce de théâtre. Hein.
Oui, qui mine de rien, les deux titres se ressemblent, mais ça ne raconte pas du tout la même histoire. Nos amis les humains, c'était avec Jean-Christophe Barque et Audrey Dana, dont c'était le premier rôle. Et c'était très, très drôle. Justement, c'est mon œuvre la plus comique et c'était très drôle en grande partie grâce à Jean-Christophe Barque, qui est un acteur formidable, qui était producteur, metteur en scène et acteur principal de cette pièce, et qui l'a porté à bout de bras pendant un an. Ça a joué pendant un an à la Comédie Bastille, et du coup on a en projet de faire une nouvelle pièce qu'on est en train maintenant de préparer et dont je vais entendre la première lecture dans 3 jours. Donc c'est pour moi un moment quand même papa qui s'apprête à voir son bébé pour la première fois bouger et vivre, et je sais qu'avec Jean-Christophe Barque on va énormément rire, parce que lui aussi c'est un super bon, pas très connu, qui mériterait d'être beaucoup plus connu, mais alors extrêmement puissant en énergie.
Bernard, nous sommes dans la dernière ligne droite de ce MDR, l'évolution de l'humour en France. Nous avons passé ces 3 grandes tranches, si on peut les définir ainsi, les grands classiques, ceux qui nous font rire aujourd'hui, et puis les nouveaux talents avec Denis Maréchal et Zelig. Comment caractériser finalement l'évolution de l'humour français ?
Ah, je crois que doucement il va vers le nonsense. Il rejoint un peu l'humour anglais et américain, tout simplement parce que toutes les voies anciennes étant explorées, il faut inventer des choses nouvelles et il faut aller de plus en plus loin. D'ailleurs, il y a une telle masse d'humoristes actuellement qui sont obligés de chercher des nouvelles voies, sinon ils se répètent ou ils se copient les uns les autres. Donc moi, ce qui m'amuse maintenant, c'est ceux qui inventent, ceux qui trouvent des nouvelles voies et ceux qui n'ont pas peur de parler d'autre chose que de la sexualité ou des caractéristiques des gens. C'est-à-dire qu'ils sortent de la moquerie pour entrer dans le délire complet. Et j'aime bien aussi Dupontel à ce niveau-là, qui va assez loin dans les inventions, la créativité, qui explore de nouvelles voies.
On a 2 petits cadeaux pour vous, Bernard. Le premier, c'est celui-ci, je ne vous l'annonce pas.
MDR.
Allô ? Allô ? Mettez des pièces. Non, mettez des pièces dans la fente qui est en face, vous mettez des pièces. Oui ? Allô ? Comment c'est toi, chérie ? Mais tu es folle de téléphoner à la maison de campagne. Je t'ai dit de ne jamais téléphoner à la maison de campagne le dimanche. Mais ma femme est à côté. Bon, écoute, c'est beaucoup plus simple. Donnons-nous rendez-vous chez Marcel. Si Marcel n'est pas là, essaie d'avoir la clé du studio chez Jacqueline et laisse un message sous le paillasson de chez Marcel. Mais de toute façon, chérie, téléphone-moi au bureau demain. Hein? Oui, alors tu laisseras un message à la standardiste. Méfie-toi, elle se doute de quelque chose. Hein? Alors, si tu es libre demain, dis-lui, le bilan est juste. Le bilan est juste, 2 fois. Si tu n'es pas libre, dis-lui, le contrôleur est passé. Je comprendrai. 2 fois, hein? Bon, alors, écoute-moi, si tu es libre demain, je vais tout faire pour me libérer, mais il faut que tu m'aides. Alors voilà, tu vas téléphoner ici à ma femme en te faisant passer pour la secrétaire des poids lourds associés et tu vas lui dire que la direction cherche à me joindre pour le briefing de demain soir. Bien. Si tu n'es pas libre demain, il faut absolument que tu me dises quel jour de la semaine prochaine tu seras libre de façon à ce que j'arrange mes rendez-vous. Hein? Je te signale que jeudi, je passe une visite médicale dans le quartier de l'Étoile et je serai libre jusqu'à 16h. On pourrait se retrouver chez Marcel. Oui, mais alors si tu n'arrives pas à avoir la clé, essaie d'avoir la clé du studio chez Jacqueline et laisse un message sur le paillasson de chez Marcel. Écoute-moi, j'ai une chose très importante, je ne peux pas te laisser parler, ma femme est à côté, écoute-moi. Je prépare un coup terrible pour le week-end. Je disais, je prépare un coup terrible pour le week-end, oui, voilà. Mets des pièces ! Mets des pièces ! Mais... Oh, tu as plus de pièces ! Oui, bon, d'accord, je vais aller très vite. Oui, voilà, j'étais en train de dire, je prépare un coup terrible pour le week-end, oui, voilà. J'ai mis Gérard dans le coup qui m'invite soi-disant à sa chasse. Je partirai avec les poinceaux que j'ai également mis dans le coup. Non, ils parleront pas, ils sont sur les poinceaux, t'inquiète pas. Je partirai donc en voiture vendredi soir avec les poinceaux, les chiens, ma femme. Bien. Je déposerai ma femme chez sa mère à Fontainebleau. Bien. Je reviendrai à Paris où je déposerai les poinceaux. Tu me suis ? Juste là, tu me suis. Bien. Mais comme je ne peux pas débarquer avenue de Wagram en tenue de chasse avec les chiens, il faudrait absolument que tu me trouves une pension pour chiens qui me prennent les bêtes pour le week-end. Bien. Il faudrait également que tu me trouves un costume civil et des papiers. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? Un costume civil ? Écoute-moi ! Autre chose, c'est très important.
tu sais que j'ai l'habitude, quand je rentre de la chasse, de ramener des produits de la campagne. Il faudrait donc que tu m'achètes, marque-le, tu vas l'oublier, marque-le. Alors achète-moi 2 douzaines d'œufs avec de la paille. Des escargots babeux, tu vois, des escargots non préparés. Bon, du thym et du laurier sur pied. Bien. Tu m'attendras avec ces provisions au coin de l'avenue de Wagram et de la place de l'Étoile. Est-ce que tu vois le coin de l'avenue, commandant? Alors attends-moi là entre 18h et 19h. Hein. Si j'ai du retard, t'inquiète pas, c'est que j'étais pris dans un bouteillage. Par contre, chérie, si je ne suis pas là à 21h, ne m'attends plus. Mais non, c'est que j'étais pris. Écoute-moi. Mais ça va marcher, écoute. Ne sois pas pessimiste. Ça va marcher. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner chez Marcel. Le téléphone de Marcel, c'est Jacqueline qui te donnera. Le téléphone de Jacqueline, c'est... Oh, c'est idiot, il est sur mon carnet. Mon carnet est resté dans la poche de ma veste, qui est sur le dossier de la chaise sur laquelle ma femme est assise dans le jardin. Je vais le chercher, hein, Jacques. Mais non, je te dis que ça... Mais non, que j'ai pas changé. Mais je te dis que ça va marcher. Écoute, pour une fois que c'est facile, écoute, quoi. Mais non, j'ai pas changé. Je suis toujours le même. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais non, tu te fais des idées, que les bêtes. Mais non, écoute-moi, il faut absolument que tu saches, chérie. Mais des pièces! Mais des pièces! Mais... Elle a plus de pièces. Écoute-moi, chérie, je sais que toi, tu m'entends, moi, je t'entends pas, mais toi, tu m'entends. Il faut absolument que tu saches que je... T'étais là, chérie? Tu sais qui c'était? Ce con de Marcel!
La petite surprise pour vous, Bernard Werber, Alex Métayer, l'adultère au téléphone. Alex Métayer qui nous a quittés en 2004. Très bon talent également, hein, de l'humour français.
Oui, je l'avais interviewé à l'époque, j'avais créé un petit fanzine de lycée et il était passé un centre culturel à Toulouse, parce que je suis toulousain, et on avait discuté, le type était adorable, il était simple et son spectacle était excellent. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer son fils, Éric Métayer, qui est maintenant pratiquement plus célèbre que son père, et qui a le même humour et le même talent, et c'est extraordinaire de voir que ça s'est transmis à travers les gènes.
Juste comme ça, une autre petite surprise, un autre petit cadeau, il faut juste tendre l'oreille.
Quoi s'appelle ?
C'est pas Star Trek ?
X-Files.
C'est le générique d'X-Files. Les phénomènes paranormaux, c'est votre pain quotidien. Est-ce que vous avez suivi cette série ?
Oui.
Et alors, c'est...
je trouvais ça un peu au début.
Ça tient la route dans votre univers ?
Oui. Mais c'est pas ma série préférée. Dans un style plus ancien, je préfère...
David Vincent ?
Non, les chapeaux melons et bottes de cuir,
ah oui,
qui arrivaient à toucher tous les sujets avec humour, avec le personnage, le système détonnant Diana Rigg et Patrick McNee. Je trouve que les Anglais sont meilleurs là-dedans pour les séries. Ils sont plus inventifs. Alors, X-Files, c'est un peu une formule qu'ils ont tirée jusqu'à la corde.
Alors, quand on apprend donc que chez vous, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, on est d'accord, en DVD ?
Oui.
Blade Runner,
oui.
Ça, c'est assez cohérent, on est bien d'accord. Star Wars.
Ouais.
On est tous d'accord. Par contre, je lis Desperate Housewives.
Non. C'est une erreur. Non, j'allais dire celui qui manquait dans votre liste, c'est Brazil. Et Terry Gilliam et les Monty Python, parce que bon, on n'a pas évoqué, c'est pas de l'humour français, mais les Monty Python, ça a été un grand choc. Tout d'un coup, je me suis aperçu avec l'humour, on peut faire un truc très très puissant. Et les Monty Python, je trouve qu'ils sont géniaux.
C'est marrant parce que vous avez une grosse culture de l'humour pour terminer cette émission. Vous n'avez pas envie de faire un livre uniquement sur ça, ou une nouvelle pièce de théâtre, ou autre
film drôle.
Ou un film drôle.
C'est très intéressant que vous disiez ça. J'ai un projet d'une prolongation de Là où naissent les blagues en gros roman, mm-hmm, qui justement explique non seulement l'humour, mais remettre la place de l'humour dans notre société et fasse rire accessoirement, mais sous forme d'un polar. C'est un polar sur le thème de l'humour. Et ça fait partie des chantiers sur lesquels je travaille. Ça sera peut-être le roman qui viendra après Le miroir de Cassandre. En tout cas, c'est là-dessus que je bosse. Et c'est passionnant. Parce que vous savez qu'en fait, pourquoi on rit ? On rit parce qu'il y a un problème entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Il y a une info qui arrive dans le cerveau gauche qui ne peut pas être digérée. Le cerveau droit le balance d'un coup au cerveau droit, qui ne sachant pas quoi faire, veut gagner du temps et envoie un influx d'endorphines qui nous fait rire. C'est juste une manière qu'a trouvé notre cerveau pour pouvoir gérer les informations bizarres. On fait le lien avec les trucs bizarres. Mais ça a la faculté de nous mettre bien, d'envoyer des endorphines dans le corps, et ça nous permet de lutter contre les maladies ça améliore notre système immunitaire. C'est-à-dire c'est un gag qui a trouvé le bon Dieu pour qu'on aille mieux, et les animaux n'ont pas ce gag. C'est vraiment la spécificité de l'homme.
Les singes,
l'humour.
Si, oui.
Les hyènes.
Certains singes, mais... Non, les hyènes.
Les quoi ?
C'est autre chose. Ils ricanent, mais... Non, c'est vrai que les singes les plus évolués savent rire. Les dauphins aussi. Ouais. Les animaux animaux les plus évolués ont utilisé ce gadget du rire pour arriver à ne pas devenir fou et à supporter leurs conditions.
Et ben on terminera sur cette explication scientifique du rire. Bernard Werber avec nous, l'auteur des fourmis, bien entendu, chez Albin Michel, et qui sortira début octobre prochain, le 1er octobre, Le miroir de Cassandre, également aux éditions Albin Michel. Bernard, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On va remercier bien entendu toute l'équipe ici à Paris, avec Stéphanie Bergeron, avec Nancy Correa, avec Lucas Brio, le tout emmené par l'excellent Philippe Amardeille. Merci Mumu.
Eh ben écoutez, on va essayer de rire un peu ce week-end.
Je vous embrasse fort.
Ah,
très
aussi.
Fort.
Ah, super. Allez, à lundi.